Comment réduire le déclin cognitif d'au moins 50% si nous nous en donnons la peine et le temps? Ces quelques résultats d'études, parmi tant d'autres, montrent à quel point nous avons du pouvoir sur l'efficacité de notre mémoire et de notre intelligence.
Les stratégies que je vous propose pour réduire le déclin cognitif vont vous enchanter, car il s'agit d'une invitation à vous préoccuper en priorité de votre bien-être. Si vous les ajoutez à celles que je vous ai déjà proposées, vous risquez de vous trouver dans une forme physique, intellectuelle et mentale éblouissante. En 2017, dans « Guérir grâce à la neuroplasticité », le psychiatre Norman Doidge a fait état des résultats d'une étude de l'Université de Cardiff au Royaume-Uni, menée pendant 30 ans, sur 2235 hommes âgés de 45 à 59 ans. Les chercheurs ont pu établir que le risque de déclin cognitif et de démence, dont la maladie d'Alzheimer, peut être réduit de 60% dans la mesure où nous adoptons 4 ou 5 des critères suivants. Pratiquer chaque jour une activité sportive dynamique ou parcourir au moins 3 km à pied ou 16 km à vélo. Une activité sportive dynamique développe la force musculaire et améliore la souplesse. Manger sainement, dont 3 ou 4 portions de fruits et de légumes chaque jour. Ne pas fumer. Consommer peu d'alcool car il est neurotoxique. En excès, il affecte la mémoire, l'équilibre et les capacités d'anticipation, en plus de s'attaquer au foie et aux autres organes. Maintenir un poids santé, soit un indice de masse corporelle entre 18 et 25. On calcule notre indice de masse corporelle, notre IMC, en divisant notre poids en kilos par notre taille en mètres carrés. Par exemple, une personne qui mesure 1,50 m et pèse 50 kg a un IMC de 22,2 et son poids est normal. Pour la même taille et 70 kg, son IMC est de 31,1 et elle a atteint le stade de l'obésité. Des applications sur le web permettent d'effectuer ces calculs sans difficulté. J'ajoute à cette liste un sommeil de qualité et suffisant, comme vous le constaterez plus loin. Tout cela prouve encore une fois que la santé cognitive, celle de la mémoire et de l'intelligence, a besoin avant tout d'un corps en santé pour se maintenir en forme et se déployer. Voici d'autres résultats d'études qui confirment tout ce que j'ai dit depuis le début de ce livre audio. Il y a une dizaine d'années, dans son livre « Le vieillissement cognitif chez les personnes âgées », le professeur Louis Berreur de l'Université de Sherbrooke a indiqué que les personnes épargnées jusqu'à un âge très avancé présentent des caractéristiques communes dans leur mode de vie et dans les activités qu'elles pratiquent depuis toujours. Voici les principales. Lire, écrire, apprendre un instrument de musique, suivre des cours, faire de l'exercice physique, surtout des exercices cardiovasculaires, et avoir un bon niveau de scolarité. Une personne peut évidemment ne pas avoir poursuivi d'études universitaires et atteindre un très bon niveau en étant intellectuellement active, curieuse et intéressée par des lectures, des recherches sur des sujets variés, des études personnelles et la participation à des conférences et à des ateliers. L'auteur et chercheur affirmait alors que toutes ces activités pourraient réduire le déclin cognitif d'environ 50%, le déclin de la mémoire de travail de 60%, en plus d'accélérer la vitesse du traitement de l'information de 30%. Un entraînement de 5 à 6 semaines visant l'acquisition ou l'amélioration de la mémoire de nos souvenirs personnels, la mémoire épisodique autobiographique et de fonctions cognitives telles le raisonnement ou l'attention visuelle pourraient même rajeunir la mémoire de 7 ans et le raisonnement de 14 ans. Mieux que cela encore, les aînés parviennent à apprendre de nouvelles habiletés cognitives au même rythme que les plus jeunes, et lors de l'entraînement de l'attention partagée entre plusieurs tâches, ils s'améliorent souvent plus rapidement qu'eux. Dans le cas de l'attention sélective, c'est-à-dire ne pas se laisser distraire par les interférences, ils s'améliorent au même rythme que les plus jeunes. Ils éprouvent cependant plus de difficultés avec les moyens mnémotechniques. Dans le même ordre d'idées, dans un article intitulé « L'intelligence existe-t-elle ?», le maître de conférences français Claude Touzet rapportait les résultats d'une étude menée pendant environ 7 ans auprès de 29 000 personnes. Cette étude a révélé que les plus actifs sur le plan cognitif ont diminué de 46 % le risque de développer une démence, dont la maladie d'Alzheimer. En résumé, pour avoir une bonne mémoire, il suffit d'avoir une bonne vie et de penser à soi, se faire du bien, dormir, manger, se reposer, s'instruire, être bien entouré. Vous remarquerez encore une fois l'importance de la curiosité intellectuelle et du choix d'activités variées. Et ce n'est pas tout. Pendant que vous fournissez des efforts pour entretenir et exercer votre mémoire, pour faire de nouveaux apprentissages, pour réfléchir, pour créer tout en éprouvant du plaisir à le faire, votre cerveau en profite pour reconfigurer ses réseaux de neurones et en créer de nouveaux, pour remplacer certains d'entre eux qui disparaissent chaque jour. Le cerveau est en effet plastique, malléable et parfois carrément réparable de façon spectaculaire, même après 90 ans. Chez les aînés, cette neuroplasticité est évidemment plus difficile que chez les plus jeunes, dont la quantité de neurones disponibles pour coder les différentes fonctions cérébrales est beaucoup plus élevée que les leurs. C'est pour cette raison que vous devriez faire des réserves dès à présent en étant très actif physiquement et intellectuellement. Si vous ne souffrez pas de problèmes de santé majeurs ou si des accidents n'ont pas créé de lésions irréversibles à votre cerveau, vous ne devriez donc pas vous inquiéter outre mesure à propos de votre mémoire. Nous connaissons tous des personnes âgées de plus de 80 ans, encore très actives et créatrices, et dont leurs compétences sont encore très recherchées. Environ 30% des centenaires ne présentent d'ailleurs pas de problèmes cognitifs majeurs, ni même de démence.
Dormir, marcher et méditer pour rester en santé, avoir une bonne mémoire et être intelligent. Ces trois activités, particulièrement agréables, ont un effet spectaculaire sur la santé dans toutes ses dimensions et tout particulièrement sur la santé cognitive.
Le sommeil devrait idéalement occuper le tiers de nos journées, soit de 7 à 8 heures. Pourtant, il est négligé et sacrifié pour diverses raisons, depuis les problèmes personnels, physique et psychologique, jusqu'au besoin d'être productif, de soutenir la compétition et ou d'être actif à tout prix, ou encore par peur de s'ennuyer. Mal dormir ou pas assez dormir ne fait pas que rendre notre vie plus difficile le lendemain, et souvent aussi celle de notre entourage. Nous devenons moins attentifs, moins concentrés et moins productifs au travail, moins vigilants en voiture, moins vifs d'esprit, fatigué, d'humeur maussade, en plus d'éprouver des difficultés à faire face à nos obligations. Lorsque l'insomnie est chronique, c'est-à-dire qu'elle se répète au moins 3 fois par semaine, pendant 3 mois, les problèmes de santé et surtout la dépression sont souvent au rendez-vous. Les autorités scientifiques ont établi un lien entre le manque de sommeil et les problèmes de mémoire, mais aussi avec l'accélération du vieillissement. Chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris, en France, Géraldine Rausch étudie le lien entre la qualité du sommeil et la formation des plaques amyloïdes, ces lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer que j'ai évoquées précédemment. Les personnes qui ont ces plaques en trop grand nombre éprouvent des problèmes avec le sommeil profond. C'est pourtant pendant le sommeil lent et profond que les mémoires sémantiques, lexicale et épisodique autobiographique se consolide. Si nous avons appris une tâche de navigation spatiale pendant la journée, par exemple un nouvel itinéraire, l'hippocampe va alors s'activer. Et plus il s'active, plus nos performances sont meilleures le lendemain. Dormir augmente aussi le taux de rétention d'un texte appris pendant la journée et relu avant de s'endormir, puis le lendemain matin. En plus d'exercer ses fonctions réparatrices sur notre organisme, le sommeil permet au cerveau de profiter de ce moment de tranquillité pour effectuer son travail de nuit, alors que nous ne pouvons plus le déranger avec nos multiples pensées et les sollicitations extérieures. C'est le thalamus, en grec la chambre à coucher, une structure au centre du cerveau qui se charge de fermer cette porte. Le cerveau peut alors trier, classer, sélectionner et organiser les informations acquises durant la journée et aussi durant les jours précédents avant de les stocker définitivement dans la mémoire à long terme ou de se débarrasser de celles qui sont devenues inutiles. Il renforce et stabilise également les connexions entre les neurones modifiés pendant la journée. Si nous manquons de sommeil, le cerveau ne peut pas vraiment se débarrasser des informations inutiles et il les conserve en mémoire. Celles-ci se transforment alors en véritables parasites qui créent des interférences au moment où nous avons besoin de rappeler à notre conscience une information utile, un souvenir, une connaissance, un mot, une idée.
Quelques stratégies pour mieux dormir. Si vous ne dormez pas bien et si vous vous réveillez souvent pendant la nuit, vous pourriez essayer quelques-unes de ces stratégies.
Adoptez un horaire de vie régulier. Couchez-vous, levez-vous et mangez le plus souvent possible aux mêmes heures, même les fins de semaine et en vacances. Accordez-vous plusieurs courts moments pour vous relaxer pendant la journée afin d'évacuer peu à peu le stress. Même chose le soir. Faites une coupure entre les activités trépidantes de la journée et la nuit qui s'annoncent. Détendez-vous avant d'aller au lit. S'il est indispensable de faire de l'exercice physique chaque jour, n'en faites pas tard dans la soirée. Évitez surtout les exercices cardiovasculaires 4 heures avant d'aller vous coucher. Une bonne marche reposante et sans précipitation est cependant la bienvenue. Donnez le signal. Adoptez une routine toujours dans le même ordre, qui donnera le signal à votre cerveau que vous êtes prêt à vous endormir. Associez votre chambre uniquement au sommeil et à la tendresse et n'y engagez jamais des conversations animées ou des disputes. N'y travaillez surtout pas et encore moins avec votre ordinateur. Un bon livre devrait suffire, mais sous un éclairage discret. Bannissez les écrans. Même si tout le monde ou presque le fait, évitez le plus possible de regarder la télévision ou d'utiliser votre tablette ou votre téléphone portable juste devant les yeux. La lumière intense qu'ils émettent, surtout dans le noir, empêche la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Si en plus vous avez regardé un film ou une émission un peu anxiogène, un film violent par exemple, l'insomnie s'invitera à tout coup dans votre lit. Ne résistez pas. Abandonnez-vous au sommeil dès les premiers bâillements et clignements des yeux. Si vous résistez quelques minutes pour terminer le chapitre du livre que vous êtes en train de lire, vous raterez ce train du sommeil. Vous devrez alors attendre le prochain, environ 90 minutes plus tard. Pas trop de chaleur. La température de votre chambre ne devrait pas dépasser 19 ou 20 degrés. Renoncez aussi au bain trop chaud avant d'aller au lit, même pour vous relaxer, car la température de votre corps doit baisser de plusieurs degrés si vous voulez vous endormir facilement. Ne mangez pas 2 heures avant d'aller au lit. Évitez aussi l'alcool en pensant qu'il favorise l'endormissement, une habitude plus fréquente qu'on ne le croit, car vous subirez alors plusieurs périodes d'éveil au cours de la nuit. Évitez aussi le chocolat et les jus de fruits, par exemple, car ce sont des excitants. Snobez l'insomnie, mais notez ses causes. Si vous faites de l'insomnie, ne vous sentez pas coupable. ne vous forcez pas à dormir et n'accordez pas d'importance à ce qui vous arrive. Ne laissez surtout pas les pensées négatives vous envahir l'esprit. Mais si l'insomnie dure de plus de 15 à 20 minutes, sortez de votre chambre, mais surtout ne mangez pas. Notez ce qui a pu la provoquer. Des soucis de santé, des difficultés au travail ou avec votre partenaire de vie, un repas pris trop tard dans la soirée, notez tous les détails. Vous pourrez par la suite tenter de résoudre ce problème en priorité. Débarrassez-vous de vos soucis en imaginant que vous les mettez dans une boîte noire à l'extérieur de votre chambre devant la porte. Dites-leur que vous vous occuperez d'eux demain sans faute, mais que pour le moment, ils doivent vous laisser en paix. Votre capacité d'imagerie mentale est bien utile encore une fois pour réussir parfaitement cette stratégie, tout comme je l'ai expliqué précédemment pour vous débarrasser de vos soucis pendant la journée.
Marcher pour faire prendre du poids à l'hippocampe et devenir plus intelligent. Les effets de la marche sur la vitalité et la santé cognitive sont spectaculaires, surtout si elle est pratiquée à un rythme rapide. Pendant au moins 40 minutes et 3 fois ou plus par semaine.
Voici les principaux bénéfices de la marche rapide tirés de plusieurs études. Amélioration des fonctions cognitives exécutives, notamment la logique, le raisonnement, la déduction, la résolution de problèmes, la planification de tâches et la capacité de se concentrer. Rapidité de réaction à toute situation, imprévue ou non, et adaptation aux changements plus faciles. Augmentation de la densité de matière grise dans l'hippocampe. Sur le site Psychomédia du 1er février 2011, on peut lire les résultats d'une étude menée par des neurologues de l'Université de Pittsburgh sur 120 personnes âgées de 55 à 80 ans, s'étant adonnées à la marche 3 fois par semaine durant 40 minutes. Après seulement un an, le volume de l'hippocampe de ces marcheurs avait augmenté de 2%, alors qu'au cours du processus normal du vieillissement, il diminue de 1,4% chaque année. Ce fut d'ailleurs le cas du groupe témoin qui ne faisait que des exercices d'assouplissement et de musculation. Par la même occasion, ces participants ont amélioré leur capacité respiratoire. Également sur le site Psychomédia, on peut lire que les exercices physiques protègent mieux le cerveau contre les changements liés au vieillissement que les activités intellectuelles et sociales assises. Ce constat provient d'une étude écossaise menée sur près de 700 personnes âgées de plus de 70 ans, publiée en 2012 dans la revue Neurologie. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'études plus récentes, aussi complètes, intéressantes et encourageantes sur les effets de la marche sur la cognition. Je rappelle aussi ce que le psychiatre Norman Doidge a écrit dans son livre de 2017 à propos du déclin cognitif qui peut être réduit de 60% si nous respectons au moins 4 de ces critères, parcourir au moins 3 km à pied chaque jour ou 13 km à vélo, ou faire des activités physiques dynamiques, manger 3 à 4 portions de fruits et de légumes par jour, ne pas fumer, boire peu d'alcool et maintenir notre poids santé. Vous pourriez profiter de vos randonnées à pied pour réviser et renforcer vos cartes cognitives. Je l'ai évoqué précédemment, c'est pendant nos déplacements que les cartes cognitives de nos itinéraires se forment spontanément grâce à notre mémoire visuelle spatiale et à nos organes des sens. Pour renforcer celles qui se trouvent déjà dans votre hippocampe, vous pourriez visualiser mentalement le chemin que vous venez juste de parcourir, puis celui que vous allez emprunter en y intégrant le maximum de détails. Le soir, avant de vous endormir, faites aussi ce genre de voyage mental au cœur de vos itinéraires, même ceux que vous avez parcourus en voiture ou encore lors de vos voyages à l'étranger. Souvenez-vous qu'à peine 20% des personnes âgées de plus de 65 ans recourent à des stratégies visuelles spatiales. Il faut donc profiter de toutes les occasions pour les entretenir et les développer afin de ne pas faire partie de ces statistiques.
Méditez pour faire prendre du volume à votre cerveau et vous libérer des affects négatifs. On ne peut pas parler du lien entre le corps et l'esprit sans mentionner la méditation, notamment ses effets sur les affects négatifs et sur la mémoire.
En stimulant l'hémisphère gauche du cerveau, le siège des affects positifs et des processus cognitifs émotionnels, la méditation de pleine conscience calme l'intellect, réduit l'angoisse, le stress et l'anxiété, les idées noires, les ruminations, le jugement, les tendances dépressives et même les acouphènes. Elle provoque aussi un rétrécissement de l'amygdale cérébrale, cette glande dont j'ai parlé précédemment, qui est active lorsque nous avons peur, nous nous mettons en colère ou devenons agressifs. La méditation de pleine conscience accentue également les effets thérapeutiques des médicaments. Elle est à ce point efficace que des hôpitaux l'ont adoptée pour aider leurs patients à mieux gérer leur stress et à soulager leur douleur et la détresse qu'elles occasionnent. Dans le cas de la mémoire et de l'intelligence, ces effets sont spectaculaires. Des études menées par Sarah Lazar, neuroscientifique de l'Université de Harvard, ont montré que méditer augmente la densité de la matière grise dans les zones associées à l'attention, à la mémoire, à l'apprentissage et à la souplesse émotionnelle, ainsi que dans l'hippocampe. Fait encore plus intéressant, dans le cas des personnes âgées, leur cortex préfrontal, où se trouvent les fonctions cognitives exécutives, donc l'intelligence, s'épaissit davantage que celui des plus jeunes qui méditent aussi. Je l'ai évoqué précédemment, autour de 80 ans, cette zone du cerveau aura normalement perdu 25% de son volume si on ne s'en préoccupe pas. Bien sûr, ce résultat ne s'obtient qu'après plusieurs semaines de méditation. Certains chercheurs indiquent 8 semaines. Il faudra continuer à méditer par la suite pour ne pas perdre ce qui est acquis.